C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'Amérique et vous sur VO Afrique. Nous émettons depuis Washington DC, ici même aux États-Unis. Dans l'Amérique et vous, édition de ce vendredi 21 mai 2021, nous parlons du conflit israélo-palestinien. Après 11 jours de combat avec le Hamas en Israël et dans la bande de Gaza, un cessez-le-feu conclu entre Israéliens et Palestiniens est entré en vigueur ce vendredi. Un responsable du Hamas affirme avoir obtenu des garanties des médiateurs que les frappes aériennes israéliennes sur Gaza seraient interrompues. Le président américain Joe Biden, dans une allocution peu après 18 heures jeudi soir, a déclaré avoir été informé par le premier ministre Benjamin Netanyahou qu'Israël avait accepté un cessez-le-feu mutuel et inconditionnel. Avec nos invités, nous essayerons de décortiquer l'actualité du moment, mais aussi comprendre les origines de ce conflit et surtout pourquoi, malgré tant d'efforts, notamment diplomatiques, la paix reste difficile à faire dans cette région. Et pour nous accompagner dans ce programme, nous avons comme invité ici à Washington Herman Cohen, ancien sous-secrétaire d'État américain aux affaires africaines. Herman Cohen, bonsoir et bienvenue.
Bonsoir.
À Herzliya en Israël, Eli Kerman, les chercheurs au centre interdisciplinaire de l'université d'Herzliya. Donc, Eli Kerman, bonsoir et bienvenue.
Bonsoir à vous.
Et également avec nous, Sami Aoun, politologue et enseignant à l'université de Sherbrooke au Canada, auteur de plusieurs publications, donc réflexion sur l'état palestinien, de l'impasse aux avenues et de la paix. Sami Aoun, bonsoir et bienvenue.
Bonsoir.
Alors, merci à tous d'être là. On va commencer par vous, Eli Kerman. Après 11 jours, je le disais, de combat, plus de 230 morts côté palestinien, une poignée côté israélien. Les deux parties ont finalement conclu un cessez-le-feu. Vous êtes dans la région. Quelle est la situation sur le terrain en ce moment?
Pour le moment, le cessez-le-feu tient bien. Il n'y a pas eu d'incident. Il y a eu des incidents à Jérusalem, sur le Temple Mount, près de la mosquée d'Al-Aqsa. Mais ça, c'était d'ailleurs une des raisons de l'action de Hamas, qui voulait inciter la population en Cisjordanie et surtout à Jérusalem pour se rebeller contre Israël. Mais d'autre part, dans les autres régions, tant sur la frontière comme dans le pays et en Cisjordanie, la situation est relativement calme.
Sami Aoun, un cessez-le-feu, votre sentiment?
Quand même, c'est presque retour à la case départ. On est à peu près comme dans la situation en 2014. Donc, il n'y a pas une solution politique. Jusqu'à maintenant, au moins ce que nous savons, on n'a pas pu déboucher cet horizon vers une certaine soit réconciliation, soit une forme de négociation quelconque qui pourrait asseoir ce cessez-le-feu sur une compréhension partagée politique.
Herman Cohen, ce cessez-le-feu intervient après des multiples efforts diplomatiques menés notamment par l'Égypte et d'autres nations. Votre regard sur comment les choses se sont déroulées jusqu'ici?
Oui, écoutez, le président Biden a dit que l'Israël avait le droit de se défendre, ce qu'ils ont fait. Mais après 10-11 jours, le président Biden a dit que ça suffit. Il y a trop de morts dans les deux pays, et surtout au Gaza, il y a des familles, des femmes et des enfants qui sont décédés à cause des bombardements. Donc il a dit que ça suffit, il faut un cessez-le-feu. Il a dit ça au Premier ministre Benjamin Netanyahu. Netanyahou n'était pas content, mais quand même, il a accepté le cessez-le-feu. Et je crois que comme Netanyahou est en difficulté à l'intérieur d'Israël, il paraît qu'il était en train de perdre le pouvoir. Je crois qu'il avait besoin de cette guerre pour regagner la popularité. Mais c'est terminé maintenant et je crois que encore une fois, peut-être il y aura une possibilité de trouver un moyen de négocier deux États ensemble, palestiniens et israéliens.
Élie Carmon, les combats de ces derniers jours ont suscité de vives réactions et manifestations à travers le monde, y compris ici aux États-Unis, dans les deux camps, il faut le souligner, mais beaucoup plus du côté des supporters palestiniens, surtout après le bombardement de cet immeuble qui abritait les services des médias, notamment Al Jazeera et Associated Press. Qu'est-ce qui explique le bombardement de ce building?
Ce building est une base de l'accès d'activité cyber et aussi du SIGINT électronique de Hamas. On le sait sûr, je crois que le Pentagone et aussi d'autres pays européens ont reçu les informations nécessaires. Là, je crois que ça a été une erreur parce que il y avait l'agence Associated Press, France Press, mais d'autre part, on le sait déjà depuis 2009 que ce genre de bâtiments qui sont utilisés par les journalistes ont été utilisés par Hamas comme base militaire. Et cela inclut le tir de missiles. Peut-être que ça a été une erreur parce que le président Biden a pris cela comme non genre comme prétexte, mais comme sous pression de son aide gauche, il a monté la pression sur le gouvernement israélien pour arrêter les hostilités.
Vous parliez du président Joe Biden. Sami Aoun, voici ce qu'il dit. Je crois que les Palestiniens et les Israéliens méritent également de vivre en toute sécurité et doivent bénéficier de mesures égales de liberté, de prospérité et de démocratie. C'est ce que le président Joe Biden a donc déclaré depuis la Maison Blanche hier soir. De nombreux présidents américains ont formulé ce vœu, mais on est jusque-là loin du compte. Que peut faire Joe Biden à son tour pour essayer de ramener les deux parties sur la voie de la paix, une paix définitive?
Monsieur Biden est dans une difficulté certaine. D'un côté, quand la question est au niveau des droits humains, des droits de la personne, il y a presque un consensus large qu'il faut respecter les droits des Palestiniens, des Israéliens, soit des Juifs, des Arabes, musulmans, chrétiens, de vivre en paix et d'avoir accès à leur culte et à leurs pratiques religieuses. Ça, c'est quelque chose qui est à peu près consensuel. Mais quand on arrive à la politique, M. Biden, jusqu'à maintenant, n'a pas articulé une vision, peut-être une volonté, mais jusqu'à maintenant, elle n'est pas bien exprimée. Comment il va s'acheminer? On sait qu'il a hérité l'effondrement de ce qu'on appelle le deal of the century, cette entente du siècle de l'administration Trump, qui est tombée à l'eau lamentablement. Mais est-ce qu'il va revenir à la solution qui est classique et qui est presque rhétorique, elle est déclarative, mais elle n'est pas nécessairement réelle ou réalisable, la solution à deux États. Pour la simple raison, il y a un point idéologique. Si le Hamas va prendre les commandes de l'autorité palestinienne ou être le représentant de l'autorité palestinienne ou du peuple palestinien, jusqu'à maintenant, le Hamas ne vise pas à une solution négociable. Plutôt, il est maximaliste. C'est une guerre presque sans fin. L'autre point qui est difficile pour M. Biden, que faire avec le territoire? De plus en plus, la base territoriale de la solution des deux États est de plus en plus mince, soit à cause de la politique de colonisation, soit à cause de Jérusalem. Et quand ça devient sur Jérusalem, les émotions sont trop chargées et on ne sait pas au juste comment la politique américaine va pratiquement adoucir les différentes tendances. Maintenant, il y a l'Égypte qui retourne en force, semble-t-il, sur la scène. Et l'Égypte, quand va prendre des responsabilités plus avancées à Gaza, il a aussi plusieurs défis. De un, d'arrêter l'incursion iranienne, l'instrumentalisation de la cause palestinienne, soit par l'Iran, soit par la Turquie. Et à ce moment, Washington devrait être à l'écoute de résultats que l'Égypte pourrait vraiment atteindre.
Herman Cohen, que peut Joe Biden, que les autres présidents américains n'ont pu faire jusqu'ici pour ramener la paix dans la région?
C'est très difficile parce qu'il y a deux problèmes. D'abord, Hamas existe et comme notre collègue a dit, ils sont maximalistes. Leur politique, c'est la destruction d'Israël. Donc, tant que Hamas est au pouvoir au Gaza, ce sera difficile. Deuxièmement, l'autorité palestinienne et les Palestiniens en général demandent le droit de retour, c'est-à-dire les Palestiniens qui habitaient ce que est maintenant Israël, qui ont perdu leur maison, ils ont dit nous devons rentrer et prendre nos maisons. D'autant qu'ils ont cette politique maximaliste qui ne peut pas marcher, je ne vois pas une possibilité pour des négociations.
Elie Kerman, toujours dans sa déclaration jeudi soir, Joe Biden a laissé entendre que son administration poursuivra sa diplomatie silencieuse et implacable et pense avoir une réelle opportunité de progresser, sous-entendu dans la recherche d'une solution à deux États. Pour vous, une solution à deux États est-elle envisageable aujourd'hui côté israélien?
D'abord, je voudrais mentionner que la vraie raison de la pression américaine et du président Biden, c'est la négociation très étroite, très sérieuse sur le plan ou sur le projet nucléaire iranien. L'administration voudrait terminer ces négociations et reprendre sa place dans l'accord avant les élections en Iran de juin. Et d'ailleurs, l'Iran a eu quelque influence sur ce qui se passe aujourd'hui, tant en soutenant Hamas et le djihad islamique, et aussi je crois qu'ils ont leurs agents dans l'autorité palestinienne. Je ne crois pas qu'il y a aucune possibilité d'une négociation pour la paix tant que Hamas contrôle le Gaza. Il n'y a pas de possibilité parce que justement, les deux autres participants ont mentionné justement que le Hamas veut la construction, destruction totale d'Israël. Donc, la seule solution serait que les autres participants, c'est-à-dire Israël, l'Égypte et la communauté internationale, imposent l'autorité d'Abu Mazen, si vous voulez, de l'autorité palestinienne sur Gaza. Et ça, d'ailleurs, était le plan du cessez-le-feu de 2014, de l'opération de 2014. Et l'Égypte était, à l'époque, aussi le médiateur. Je crois que les prochaines semaines et mois seront surtout consacrés à la négociation de la reconstruction de Gaza du point de vue humanitaire. Et c'est une question très importante, mais très difficile aussi, parce que le Hamas voudrait avoir gain politique, comme je dis, à Jérusalem ou dans les territoires de la Cisjordanie. S'il y a disons, dans quelques mois, une solution pour ce genre de reconstruction de Gaza, c'est seulement à ce moment-là, peut-être, on reprendra les négociations pour une paix entre Israël et les Palestiniens, mais il faut oublier que pour le moment, il y a trois États, ou trois quasi-États. C'est Israël, c'est l'autorité palestinienne qui contrôle un territoire, et c'est le Hamas qui contrôle notre territoire, qui est palestinien aussi.
Si vous pouvez, Elie Kerman, très brièvement, comment écarter le Hamas de l'équation lorsqu'on sait que cette organisation a des assises locales et qu'elle n'est pas arrivée là par hasard?
Oui, c'est un mouvement de résistance, si vous voulez, islamique, islamiste, très fort. D'ailleurs, il faut savoir du point de vue historique et social aussi que Gaza a toujours été beaucoup plus islamisé, si vous voulez. La population, il y a une différence presque ethnique dans les tribus, les familles qui vivent à Gaza et ceux qui vivent dans la Cisjordanie.
On ne va pas refaire l'histoire, chers invités, mais il est important de souligner certains aspects de ce conflit israélo-palestinien, l'idée d'une solution à deux États notamment, où Israël et Palestiniens vivraient en paix, commence à germer en 1947 sous l'égide des Nations Unies, mais il faut dire que déjà à cette époque, les pays arabes voient cette décision des Nations Unies comme une façon pour les Européens de conquérir leur territoire, ce qui va conduire à la guerre entre Israël et les pays arabes en 1948. Israël va gagner cette guerre et va étendre son territoire au-delà des limites fixées par les Nations Unies et expulser de nombreux Palestiniens du territoire qu'ils occupent. Sami Aoun, je vous pose la question. Est-ce que du coup, ce qu'on vit aujourd'hui ne trouve pas sa genèse dans cette tentative des pays arabes en 1948 de vouloir se défaire d'Israël et que depuis lors, Israël se trouve constamment en mode défensive et est obligé de se défendre?
Oui, certainement. C'est un point de vue qui est respectable. En ce sens, quand vous reconnaissez le plan de partage en 1947 et après, parce qu'il signifiait justement l'idée des deux États. Et la légitimité de l'État d'Israël était conditionnée presque avec la légitimité de créer un autre État palestinien aussi. Sauf que ce qui est arrivé de plus en plus tout au long, on a des coups où on a certainement avancé vers la paix. Il ne faut jamais oublier qu'il y a maintenant 6 pays arabes et musulmans qui reconnaissent l'État d'Israël et ils ont conclu des ententes de paix à différents niveaux, et entre autres l'Égypte et la Jordanie, et certainement les derniers venus, les Émirats arabes unis, ou avec le Bahreïn, où la paix est plus chaleureuse que la paix froide qui a dominé. L'autre point qui est important, de plus en plus, les Palestiniens ont trouvé beaucoup de difficultés à avoir une représentation. La dernière, c'est celle de Mahmoud Abbas, qui a misé beaucoup sur l'approche diplomatique et sur l'adage de M. Arafat qu'il veut libérer la Palestine pouce par pouce, iota par iota. Alors, cette approche-là s'est effondré dernièrement. Et ce qui fait la force de Hamas, c'est justement que l'autorité palestinienne, sinon elle n'est pas corrompue, mais elle n'a pas une belle performance. Et la faute à qui, justement? Parce qu'il y a deux montées qui vont nuire à la paix. La montée, comme ça a été dit, de la mouvance islamiste radicale maximaliste, et aussi en Israël, depuis au moins 14 ans à peu près, il y a une montée de la droite israélienne entre droite centriste et droite aussi extrême. Alors c'est pourquoi on voit dans les deux côtés, il y a un effondrement de ce qu'on peut appeler le camp de la paix ou l'approche de la paix qui a été représentée souvent par le Parti travailliste en Israël et par Fatah ou d'autres personnalités palestiniennes.
La guerre de 1948 n'est pas la seule guerre qu'Israël va livrer, car en 1967 survient la guerre des six jours, au terme de laquelle Israël va récupérer de nombreux territoires, notamment le plateau du Golan à la Syrie, la Cisjordanie à la Jordanie, le Sinaï et Gaza à l'Égypte. Eli Carmon, on a l'impression qu'après avoir gagné la guerre des six jours, Israël est animé par une seule mission, celle d'agrandir son périmètre de sécurité. Est-ce que c'est ce qui justifie la construction, par exemple, des colonies par Israël dans les territoires palestiniens aujourd'hui?
Il faut se rappeler d'abord que la Jordanie contrôlait la Cisjordanie et l'Égypte contrôlait le Gaza de 1948 à 1967. Ils n'ont donné aucun droit spécial aux Palestiniens. Ils se sont comportés comme des États occupants. Après la guerre de six jours, Israël a tenté de négocier avec les pays arabes, tous les pays arabes, et la réponse a été à la conférence, au sommet de Khartoum, où tous les pays arabes, et cela inclut les Palestiniens, ont dit non à la paix, non à la négociation. Et donc cela a interrompu le processus de négociation pratiquement jusqu'à la guerre de 73 du Yom Kippour. C'est vrai que la question de la construction en Cisjordanie, d'ailleurs aussi à Gaza et dans le Sinaï, jusqu'à 88, ça a été une politique qui a été soutenu par des gouvernements, d'abord laboriste et ensuite du Begin, de M. Begin de droite, parce qu'il n'y avait pas un partenaire pour négocier une paix, et les Palestiniens à l'époque n'avaient pas la force politique de le faire. D'ailleurs, tous les tout ce qui était comme lieux israéliens au Sinaï ont été entièrement vendus à l'Égypte. Le fait que la droite, si vous voulez, le public d'Israël est allé vers la droite à partir de l'accord de Oslo, qui était un accord très intéressant, très important, pour arriver à une paix définitive, d'attentats suicides à partir de 1994-95, tant pour le Hamas, et ensuite, durant la deuxième intifada, à partir de 2000, de site du Fatah. C'est-à-dire le public israélien a vu qu'il n'y a pas de possibilité d'une vraie paix, d'une vraie négociation. Et la stratégie que le premier ministre Yitzhak Rabin à l'époque professait, lutter contre le terrorisme comme s'il n'y a pas de négociation et négocier comme s'il n'y a pas de terrorisme, a échoué et lui-même a été assassiné par un religieux extrémiste israélien. On voit que la population israélienne va vers la droite justement à cause de la réaction très négative du côté palestinien.
Il y a eu beaucoup de négociations pour essayer de ramener la paix. Il y a eu notamment, on le disait, les accords en 1978 de Camp David. Il y a eu les accords de Oslo en 93. Il y a même eu un deuxième round de négociations baptisé Camp David 2 qui a été mené dans ce round en 2000 et qui n'a rien donné. Et donc, on tire presque à la fin de cette émission. Élie Carmon, vous vivez à Tel Aviv. Les Israéliens que vous rencontrez croient-ils encore à une paix durable avec la Palestine? Vous avez dit qu'il faut écarter le Hamas de l'équation. Si ce n'est pas fait, est-ce à dire qu'il n'y aura jamais de paix dans la région?
Non, à mon avis personnel, avec la présence et le contrôle du Hamas de Gaza, il n'y a pas de paix parce qu'il n'y a pas une paix entre le Hamas et le Fatah, qui est le responsable de l'autorité palestinienne. Je crois qu'il y a un point qui est très important, qui aussi a influencé sur le cessez-le-feu assez rapide ces jours-ci. C'est les accords d'Abraham qui ont permis la reconnaissance d'Israël par plusieurs pays très importants du Golfe, surtout les Émirats et aussi l'Arabie Saoudite dans le fond, parce que sans l'accord de l'Arabie Saoudite, je ne crois pas que les autres pays du Golfe auraient accepté ces accords, et aussi du fait que c'est une paix beaucoup plus chaude. Donc il y a la possibilité que l'opinion publique israélienne, avec le temps, qui d'ailleurs a envoyé des dizaines de milliers de touristes le jour des accords, même le jour des accords avec les Émirats et Bahreïn, ça peut changer l'état d'esprit des Israéliens, mais ça doit aussi changer quelque chose chez les Palestiniens.
Sami Aoun, trop de choses à dire pour ce conflit, mais à la fin, c'est la paix qu'on recherche. Elle viendra d'où, la paix entre Israéliens et Palestiniens, selon vous, pour terminer?
Certainement, il y a beaucoup de puissances arabes et musulmanes. Il y a une bonne opinion publique palestinienne qui est aujourd'hui soit étouffée, soit intimidée, qu'il voit qu'il y a une solution possible, comme ça a été mentionné, les accords d'Abraham qui donnent une lueur d'espoir. D'ailleurs, la guerre de Gaza dernièrement, c'est une façon de torpiller cette approche de la guerre. Après le cessez-le-feu, le problème, c'est que à Gaza, ce qui est arrivé justement, ce sont des conflits inter-arabes entre le Qatar, les Émirats arabes unis, et la Turquie. Et si jamais il faut une approche consensuelle, il faut que l'Égypte, par exemple, qui est un État central dans la région, prenne ses responsabilités, arrête les ingérences qui viennent de l'extérieur, comme on l'a déjà cité, et prendre la relève et aider les Palestiniens soit à se réconcilier, soit à peut-être commencer une reconstruction sur une entente politique.
Voilà, nous poursuivrons le débat dans nos autres émissions. On va s'excuser pour Herman Cohen qui a dû nous quitter pour d'autres engagements. Merci d'avoir suivi. C'est la fin de cette émission de l'Amérique et vous, émission produite et réalisée par Lionel Gaïma, présentation John Linden. Merci à nos invités et à vous d'avoir suivi. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre notre site internet voafrique.com où vous pouvez réécouter cette émission pour vous informer sur l'actualité 24h sur 24. Au revoir.